Bonjour et bienvenue sur Escapade en Garrigue, l'émission du collectif des Garrigues sur Radio Escapade. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet particulier, le sujet des charbonnières en Garrigue. Alors comme vous le savez, dans les Garrigues il y a à la fois ces fameux grands milieux ouverts où on va marcher sur les grands paysages de thym, de romarin, etc. Mais il y a aussi des milieux plus fermés, des milieux boisés, des taillis de chênes verts qui témoignent d'usages importants aussi d'exploitation du bois. Et une des différents types d'exploitation, il y a eu le charbonnage, pour faire du charbon de bois. Alors pour en parler, on a aujourd'hui Martial Aquarone. Bonjour Martial.
Bonjour.
Donc qui nous vient de Sainte-Croix de Quintillargues. Et donc peut-être tu peux déjà dans un premier temps te présenter un peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu t'intéresses aux charbonnières, est-ce que tu es affilié à une structure en particulier, enfin un peu toute la présentation.
Oui, voilà, donc moi j'habite au cœur de la Garrigue, puisque je suis à côté du Pic Saint-Loup, enfin la Garrigue Montpellier-Rennes. Et évidemment, entouré par toutes ces espaces de Garrigue, je me suis intéressé par mon travail, puisque je suis guide au départ, donc évidemment tout ce qui est histoire, patrimoine, ça fait partie de mon travail et de mes intérêts. Et puis, il se trouve que dans mon petit village de Sainte-Croix, de Quintillargues, on a réalisé pendant une dizaine d'années une manifestation. Alors, c'est le foyer rural de Sainte-Croix. Et dans cette manifestation, on était plutôt orienté sur la vigne, la taille de la vigne même exactement. C'est pour ça qu'on faisait ça au mois de mars. Et petit à petit, on a débordé la vigne, on est allé sur ce qu'il y avait à côté, donc les Garrigues. Et puis, dans les Garrigues, j'ai eu la chance de rencontrer sur Sainte-Croix donc un ancien charbonnier qui m'a initié, enfin fait découvrir d'abord, puis initié aux méthodes de charbonnage. Donc ce qui fait que par côté professionnel et côté amateur, je me suis retrouvé en plein là-dedans. Depuis, c'est parti et ça finit pas.
Alors Sainte-Croix de Quintillargues, donc c'est situé entre Sommières et Saint-Mathieu-de-Tréviers, plus près de Saint-Mathieu-de-Tréviers.
Oui, à 3 km de Saint-Mathieu.
Voilà, ouais. Et du coup, on a des zones de garrigues. Là, c'est la montagne de la Suque, c'est ça ?
C'est ça, oui, qui surplombe, qui domine le village. Le village de Sainte-Croix, c'est un peu une vallée entre les reliefs qui sont à côté de Saint-Mathieu et la Suque. Et puis après, il y a une barrière un peu plus au nord, qui donne sur un ensemble de collines. Donc tout ça, c'est très boisé, et c'est là qu'il y a eu, bien sûr, beaucoup d'activités dans l'exploitation du bois en général. Quoi.
D'accord. Et donc le foyer rural, il a quoi comme activité un petit peu?
Alors,
sur cette...
au sein du foyer rural, il y a une section patrimoine.
D'accord.
Donc au départ, on était plutôt, en fait, on est issu de l'événementiel, puisqu'on faisait la manifestation du Gabel. Et puis, petit à petit, donc, il y a eu plusieurs personnes qui sont intéressées avec moi sur le patrimoine. Et ça a pris corps, ça a pris de l'expansion. Et puis, donc, on a tout à fait créé une section, la section patrimoine, qui s'occupe diverses activités, de valoriser, d'inventorier, d'animer, de donner aussi toutes nos connaissances au public. Et puis voilà, ça est parti comme ça. Et puis il y a quelques années maintenant déjà, on a eu la chance d'avoir un bout de bois communal.
Ouais.
Qui était donc disponible parce qu'il n'était absolument pas utilisé. Et en accord avec la commune, on a ouvert des sentiers qui nous ont permis donc de retrouver des vestiges de charbonnières, de fours à chaud. Hein. Et après, par la suite, on va dire en trio avec la commune, la section patrimoine et la communauté du Grand Pic Saint-Loup, la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, il y a eu la mise en place le sentier des charbonnières. qui aujourd'hui est avec des panneaux que tout le monde peut fréquenter, enfin, utiliser et découvrir.
Donc à la fois une mission d'inventaire, mais aussi de valorisation, de faire connaître au grand public justement cette...
Voilà, oui. C'est ça qui... Disons qu'au cours de l'année, on est plutôt sur le terrain... et puis après, on est quelques-uns, dont René, qui fait partie aussi du collectif, qui a lui une autre spécialité sur le feu. Nous allons, même en dehors de la commune, évidemment, on va un peu de partout faire des interventions. On nous demande souvent de venir parler de ce milieu-là. Enfin, moi, pour les charbonnières, évidemment.
D'accord. Donc, on va s'écouter une petite musique, et puis on reviendra plus particulièrement sur qu'est-ce que c'est qu'une charbonnière, un peu plus précisément.
Che calrebbe gli alu desir che m'ha vita da sasinia la lengua del poi
la lengua
più così slabrato più fuori come i veni
come le vittorio come il sole di
più così slabrato più fuori come i veni
come le vittorio come il sole di
Donc c'était la marmite ad hoc du groupe Coriandre. Alors on est sur Escapade en Garrigue avec Martial Aquaron. Donc on parlait justement de cette question des charbonnières. Alors qu'est-ce que c'est qu'une charbonnière? Depuis quand on fait des charbonnières? Martial, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet?
Les charbonnières, en fait, c'est un thème un peu transversal. C'est-à-dire, c'est... quelque chose qui permet de transformer le bois en charbon de bois. Et pourquoi on transforme le bois en charbon de bois? C'est parce qu'on a besoin de chaleur pour transformer les métaux. Alors on peut dire que les charbonnières, ça apparaît il y a très longtemps, hein, quand les hommes commencent à utiliser des métaux. Oui, parce que même le cuivre, à la limite, le cuivre, on peut le faire fondre avec du bois, mais c'est très difficile. Avec du charbon, on y arrive mieux.
Alors pourquoi, du coup
c'est... Alors parce que le charbon a une puissance calorifique qui est presque un tiers supérieur, voire presque le double du bois.
D'accord.
Voilà. Et c'est vrai que les métaux, alors l'âge du bronze, puis l'âge du fer, surtout l'âge du fer, ouais. C'est évident qu'il a fallu produire du charbon de bois. Et c'est vrai que quand on fait un feu de cheminée, par exemple, on a toujours un peu des morceaux de charbon de bois qui traînent. Mais... dès qu'on est dans une utilisation globale, artisanale, il faut en produire, il faut avoir du charbon en quantité. Et on peut dire que c'est vraiment la forge, hein, qui va faire que les hommes vont développer des techniques de transformation du bois en charbon de bois. Et donc ça va traverser les siècles. Hein. Bon, mais évidemment, on a l'Antiquité avec les Romains qui sont des grands travailleurs qui vont développer ce système. Mais on va retrouver en gros toujours le même phénomène, parce que le charbon de bois, pour le réaliser, il faut faire une cuisson à l'étouffée.
D'accord. Et oui, pour pas que justement ça.
Voilà. Ce qu'on va faire, on va réduire l'apport d'oxygène en fait, c'est-à-dire en isolant de l'air. Alors il y a plusieurs façons de faire, hein. Par exemple chez les Romains, ils faisaient la fosse, ils creusaient dans le sol, ils mettaient le bois dans le sol et puis ils recouvraient. C'est une technique qu'on va retrouver en Afrique par exemple aujourd'hui. Et puis petit à petit, il y a ce qu'on appelle la cuisson par la meule. La meule, quand on parle de meule, on parle de la meule de foin par exemple, on imagine le tas de foin. Et bien c'est un peu pareil, sauf que là on met du bois dans des dispositions un peu particulières, enfin bien arrangées. Et puis, on va recouvrir tout ça d'une mince, enfin, disons, une relativement mince couche de terre qui va donc isoler ce bois de l'air.
D'accord.
Et le travail va se faire justement d'arriver à arriver à une haute température, puisqu'il faut 500 degrés.
D'accord.
Mais sans brûler, sans flamme, évidemment, parce que sinon on fait de la cendre, hein, comme dans la cheminée. Et donc ça, c'est une technique qui va se développer à partir du Moyen-Âge. Il n'y a pas vraiment d'enseignement précis là-dessus, mais on le retrouve dans certains, comme l'encyclopédie Diderot et tout ça. Et c'est une technique qui a été utilisée encore jusqu'à récemment. Des derniers charbonniers qui ont été dans nos garrigues, que par exemple à Sainte-Croix-de-Quentillargues, ça s'est arrêté en 1962 exactement, donc c'est pas si vieux que ça, hein. Et ben, ils utilisaient encore cette technique-là.
D'accord, donc une technique à plusieurs siècles du coup d'utilisation.
Voilà, avec par exemple pendant la guerre, on va utiliser des fours métalliques. Puisque les fours métalliques, ben, on fait la même chose qu'avec la terre, mais c'est plus facile, puisque le métal donc isole le bois de l'air, et il n'y a pas toute la difficulté de la conduite de la cuisson qui est l'art du charbonnier.
D'accord. Donc une longue histoire de charbonnière. Alors, est-ce que c'était une activité particulièrement importante?
Alors, c'est une activité qui est très très importante, parce que faut pas oublier que le charbon de bois était la seule source d'énergie réelle. Transportable. En dehors, bon, après, il y avait des moulins à eau, il y avait des. Ce genre de choses, mais transportable, c'est-à-dire qu'on pouvait utiliser à droite et à gauche, puis amener en ville, vous voyez, pour faire la cuisson, pour faire la forge, pour faire un tas de choses comme ça. C'était important et c'est assez intéressant à voir qu'il s'est développé une sorte de mythe sur le charbonnier, puisque le charbonnier, à la fois, c'est quelqu'un dont on ne peut pas se passer, puisqu'il faut le charbon, puisque ce charbon va permettre donc de faire la transformation du fer pour faire les outils, pour faire tout ce qu'on a besoin dans le fer, hein, les armes, bon, évidemment. Et puis, c'est aussi un travailleur qui est isolé, qui est dans le bois, qui est loin. Et déjà, la forêt a toujours un côté dans lequel on va trouver les sorciers, les gnomes, puis les brigands.
Oui, parce qu'ils restaient longtemps dans le bois, du coup, pour produire le charbon.
Ah ben, ils restaient quasiment tout le temps, on peut dire. Ouais. Voilà. Et puis, être charbonnier, c'était le dernier des métiers, parce que c'est un métier qui rapportait peu. qui étaient sales, bien sûr, évidemment, ils étaient toujours noirs, et puis ils étaient isolés. Alors, dans nos garrigues, par exemple, on trouve des vestiges. Évidemment, les vestiges qu'on trouve, c'est plutôt des vestiges du fin 19e, début 20e, c'est-à-dire, en fait, c'est des plateformes un peu noires.
Ouais.
Mais elles sont très présentes, ça, c'est intéressant, parce que, justement, dans les garrigues, il y a encore des vestiges avec des restes de cabanes et tout ça, tandis que, parce qu'on avait une façon de faire ici dans notre région qui était un peu itinérante. C'est-à-dire que le charbonnier allait d'emplacement en placement, parce qu'il n'y a pas tellement de bois, finalement.
Oui. Hein.
Donc, il fallait qu'il trouve le bois. Donc, il ne restait pas sur place. Tandis que quand on va dans les grandes forêts du centre de la France, ou autrefois, je suis allé en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, il y avait quelque chose sur les charbonniers. Eux, là, ils avaient tellement de bois qu'ils faisaient, en fait, un village. Ouais. Un village, et puis ils amenaient le bois au village. Tandis qu'ici, c'est pour ça qu'on a autant d'emplacements, de sites. Et évidemment, quand on trouve un site d'une charbonnière très ancienne, eh bien, on peut se dire qu'il y avait un chemin d'accès, il y avait un chemin de départ même, puisque ce qui est là aussi a beaucoup marqué quand même notre société, c'est qu'il y avait des rites, comme dans toutes les corps de métier, donc il y avait une loge, hein, la loge charbonnière, et la loge à la fois, c'est l'emplacement où il y avait l'aire de charbonnage, la cabane, mais il y avait une entrée, il y avait une sortie, il y avait des codes. Et ces codes étaient très stricts. Et on dit qu'au XVIIe siècle, quand les francs-maçons vont développer leur codification, leur code, ils vont s'inspirer des codes des charbonniers, parce que ce sont des codes très peu connus.
D'accord.
Et donc, c'était quelque chose de... qui va donner aussi d'ailleurs le grand mouvement social un peu révolutionnaire des Carbonari, qui est là aussi un peu associé à toutes ces sociétés secrètes, dans lesquelles on est dans la forêt et où on va pouvoir s'isoler du contexte urbain et la puissance de l'État, du monarque ou de l'Église. Et il y a eu tout ça, un mouvement là-dessus.
D'accord, donc le charbonnier, c'est au-delà du métier qu'il faisait, c'est toute une ambiance, un corps, en fait, qui s'est construit petit à petit au fil du temps. Justement, du coup, on disait que dans nos garrigues, c'était plutôt itinérant, donc c'est beaucoup le chêne vert qui était utilisé. Pour ces charbonnières. Est-ce que ça a toujours été, il me semble qu'on parle beaucoup des Italiens par exemple, est-ce que ça a toujours été les mêmes qui ont fait du charbonnage?
Alors, il y a évidemment que pour être charbonnier à la meule, hein, parce que ça demande un certain art, on va dire, il fallait être instruit de cet art-là. Hein. Et donc, il fallait des gens qui connaissaient le processus et qui allaient le transmettre. Donc on va trouver souvent des filiations au cours du temps. Et à partir du 19e siècle, on va avoir un manque d'intérêt des gens d'ici de faire ce métier-là, qui est difficile, dans les bois, loin de tout, il n'y a rien, aucun confort. Donc il y a une main-d'œuvre étrangère qui va s'installer, et bien sûr ce sont les Italiens. Les Italiens qui sont bien implantés en Provence, là ce sont les Piémontais, et puis dans notre coin, eh bien, les Piémontais étant en Provence, vont venir un autre type de population italienne, qui est plus du nord, ce sont les Bergamasques, qui petit à petit vont devenir pratiquement tous les charbonniers qu'on va trouver dans notre région. Il y a encore des locaux qui le font, j'ai rencontré une dame qui était la fille d'un charbonnier d'ici à Saint-Martin-de-Londres, mais petit à petit donc ces Italiens font la référence. Et en même temps, on va avoir aussi, vous savez, au niveau de Montpellier et Pic-Saint-Loup, on est à la confrontation entre l'Italie et l'Espagne.
Oui.
Et à un moment, il y a quelques Espagnols qui arrivent, donc les républicains, qui cherchent un peu de travail et qui vont, eux aussi, faire du charbonnage. Mais ils sont moins présents, moins nombreux quand même que les Italiens. Les Italiens qui sont souvent d'ailleurs installés par la suite dans la région.
Alors, on va s'écouter une petite musique et puis on va revenir sur les traces des charbonnières de nos jours.
Mmh. pani, a chavonga ya pala, ke chipalo pani, a chavonga ya pala,
avena shas tusa, avena shas tusa, avena shas sabe tu ke pena, avena shas tusa, avena shas tusa, avena shas sabe tu ke pena.
Tu me chayo ni camisa,
ni
tu chavo lo camam. Tu me chayo ni camisa, ni tu chavo lo camam.
Avena shas tusa, avena shas tusa, avena shas sabe tu que pena. Avena shas tusa, avena shas tusa, avena shas sabe tu que pena.
Si la mangete na chava, toga le una obshala. Si la mangete na chava, toga le una obshala. Ay, tú que tú de nai, ay, man guitarra de nai, así la man que los vete te chivai. Ay, tú que tú que de nai, ay, man guitarra de nai, así la man que los vete te chivai. Ay, la, 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 la,
Alors on s'écoutait une petite chanson de Bratch sur Radio Escapade. Donc on est à l'émission Escapade en Garrigue avec Martial Aquaron sur la question des charbonnières. Donc on a vu un petit peu qu'est-ce que c'était qu'une charbonnière, l'histoire des charbonnières au cours du temps. Finalement les charbonnières aujourd'hui on n'en voit plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette activité qui était si importante s'est écroulée comme ça si rapidement?
Alors, donc je disais tout à l'heure que le charbon de bois est une source d'énergie importante pendant quasiment des millénaires. Mais il va arriver un concurrent, donc dès le Moyen-Âge, mais surtout au XIXe siècle, c'est le charbon de terre. Mmh. Hein, le charbon qu'on trouve dans la terre, et puis qui aujourd'hui va devenir la principale ressource d'énergie dans un an ou deux d'ailleurs, devant le pétrole. Mais il y a aussi donc d'autres énergies, le pétrole justement, qui va arriver, l'électricité, enfin tout ça, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et évidemment, donc ça prend la place, on va faire tourner les moteurs, ou l'électricité, ou à l'essence, tout ça. Donc on n'a plus trop besoin de ce charbon de bois. Et le dernier marché véritablement dans la région, ça va être de l'autre côté de la Méditerranée, c'est le Maghreb, qui a besoin, qui lui continue d'utiliser du charbon de bois. Et donc les derniers charbonniers qui vont vraiment charbonner avec un marché économique, c'est cela. Et puis quand en 1962, il y a l'indépendance de l'Algérie, eh bien, il n'y a plus de véritable marché économique, eh bien, ça s'arrête complètement. D'accord. Mais ça, c'était vraiment les derniers. Hein.
Et du coup, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu peut-être...
Voilà, il y a eu une petite retour du charbon de bois pendant la guerre, puisqu'on va l'utiliser pour les gazogènes, hein, pour faire tourner les moteurs avec les gaz qui sont issus de la combustion du charbon. Et Vichy, le gouvernement de Vichy, de Pétain, va développer tout un programme de charbon de bois, enfin d'avoir du charbon de bois pour les gazogènes. Et là, on va employer justement une main d'œuvre qui n'est pas spécialisée dans la cuisson difficile à la meule. Et c'est pour ça qu'on va mettre ce qu'on appelle des marmites ou des fours qui peuvent être plus faciles à contrôler pour ce genre de gens qui ne sont pas spécialisés, quoi.
Donc du coup, plutôt les techniques de charbonnage avec la meule ont eu tendance à quasiment disparaître au début du XXe siècle, première moitié du XXe siècle.
Voilà, ça va se terminer avec les derniers Italiens qui vont venir là. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps un Italien qui lui n'était pas ni du Piémont ni de Bergame, mais qui était calabré. Et lui disait que... Enfin, c'était le fils, parce qu'on est toujours dans la génération des enfants des derniers charbonniers, souvent, hein, qui sont souvent d'ailleurs des gens un peu âgés. Et lui, là, jusqu'à dans les années 70, il faisait encore du charbon. D'accord. Comme ça, traditionnellement. Et justement, il utilisait comme main d'œuvre des Italiens qui venaient encore de chez lui.
Et du coup, le savoir-faire, ce savoir-faire, il a complètement disparu ici ou...
Alors, ben, il disparaît, puis après, il y a des gens comme moi hein, qui essayent de le perdurer. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer donc Ben, charbonnier, Louis Salvi, qui habite à Sainte-Croix, et qui, lui, comme toute cette génération-là, qui sont des personnes qui ont entre 80 et 90 ans, ont été en fait des enfants de charbonniers, mais jusqu'à l'âge de 20-25 ans, il a charbonné avec son père, son grand-père et les cousins. Et donc, il a su garder cette technique, il a fait, acquérir cette technique, et il a su la garder. Et quand on a fait les manifestations, il y a une quinzaine d'années à peu près, il a participé à cette manifestation, il a dit, bah tiens, il nous a proposé de faire une charbonnière. Nous, on a découvert, moi j'ai découvert complètement ce que c'était. Et donc, il a fait une première charbonnière pour une année, voilà, ça, j'ai vu, je l'ai aidé, c'est moi qui l'ai aidé, ça m'intéressait. Puis il a refait une deuxième année, alors là, j'ai un peu plus participé, bon, j'apprenais encore, hein. il m'a montré la conduite, hein. Ce qu'on appelle la conduite du feu, hein, c'est-à-dire comment carboniser dans tout le volume de la meule le bois, hein, sans brûler le charbon. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile. Et puis, la troisième année, il est assez fatigué, donc il a fait sa charbonnière, et à la fin, quand on l'a démonté, on a récupéré le charbon de bois. Et le seul vrai, ces gens, ils n'utilisaient pas beaucoup d'outils, ils avaient une hache, un poudette, quelques outils comme ça, puis ils avaient surtout un piquet de bois qui permettait de faire la cheminée centrale, parce qu'il y a une technique pour monter ses meules. Et la fin, donc c'est un vague, c'est un bête poteau électrique, hein, qui était coupé là, mais qu'il avait depuis longtemps. Et il m'a donné le poteau, il m'a dit maintenant c'est à toi de le faire.
D'accord.
Donc c'est une forme de transmission.
Une transmission, voilà. C'est ça, tout à fait.
Ouais.
Et du coup, dans ce passage, donc il y a ton cas en particulier, mais tu es aussi allé recueillir des témoignages aussi dans les garrigues, notamment d'anciens charbonniers ou fils de charbonniers.
Ouais, fils ou filles, oui.
Fils ou filles.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de filles aussi qui ont vécu dans ces cabanes, et puis elles avaient moins de 10 ans, enfin, elles étaient très jeunes.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que justement, cette histoire de cabane, puisqu'on n'en a pas encore trop parlé jusqu'à maintenant, c'est que du coup, la charbonnière, même si c'était du charbonnage itinérant, la charbonnière, il fallait un petit moment quand même avant que tout se consume. Donc, il y avait une cabane qui était à côté.
Oui, parce que ça durait au minimum un mois, hein, sur le même emplacement. Donc, il n'était pas tout le temps en train de circuler, même parfois un peu plus longtemps. Donc, et puis, par exemple, les Italiens, au début du XXe siècle, ils viennent seuls, les hommes, mais petit à petit, ils vont venir, soit ils sont mariés déjà en Italie, ils ont des enfants, ils vont commencer à amener des enfants, soit ce sont des jeunes qui, l'hiver, vont retourner en Italie, vont en profiter pour se marier, pour revenir avec leur femme, et puis là, ils vont fonder une famille, mais ils vont vivre donc dans des cabanes, toutes simples, hein, vraiment, c'est qu'une pièce, souvent, avec un toit en branche, enfin, à la fin, c'est plutôt en tôle, mais, et là, et donc, ces enfants vont vivre avec eux, et participer au travail, enfin, participer aussi à aller chercher l'eau, aller chercher leur ravitaillement, donc, quelque chose de très difficile. Et donc, j'ai commencé une série d'interviews et de recueils de témoignages de ces personnes-là. Je travaille avec une sociologue, Anne-Françoise Volponi, et puis avec aussi un collègue qui filme en même temps, René. Et donc, on recueille, c'est des témoignages qui disparaissent. Mais alors, c'est assez curieux, c'est que le charbonnage, le charbon de bois dans les forêts, ça s'est arrêté il n'y a pas si longtemps que ça. On a perdu rapidement les lieux, enfin on perd les lieux, hein, si on les retrouve pas, si on les valorise pas, si on les inventorie pas, mais c'est encore resté dans notre conscience collective. Et c'est vrai que on est sur des générations où il y a la faim et puis un peu la perte, mais en même temps c'est encore présent. Et donc c'est tous ces témoignages que là je sais plus combien, il y en a pas mal, ces personnes-là se rappellent de cette vie, et c'est jamais négatif, c'est toujours, alors c'est peut-être des vues d'enfants souvent, hein, mais ils se rappellent d'une vie saine, d'une vie sans trop de problèmes, pas trop dur, alors qu'ils n'avaient rien, hein. Peu à manger, il fallait qu'ils aillent à l'école, ces enfants, souvent, il fallait qu'ils marchent 2 ou 3 heures, ils allaient dans le village. Et après, petit à petit, les charbonniers vont donc s'implanter sur, disons, dans le social français, dans le tissu social français, et les femmes vont avoir une location dans le village, vont garder les enfants. Et les hommes,
ceux qui vont rester dans
le bois.
D'accord. Donc, du coup, dans les traces aussi visibles qu'on peut voir dans les paysages de Garrigues, c'est qu'on va retrouver des traces de la charbonnière, du lieu où on a fait la charbonnière, mais aussi des traces de ces cabanes.
Oui, oui, oui.
Et donc, du coup, comme tu disais tout à l'heure, ce qui va être intéressant aussi, c'est d'inventorier ces traces-là pour garder une mémoire un petit peu de l'importance de ce travail-là.
Oui, ce qui est intéressant, moi j'ai fait aussi des recherches sur ma commune, entre autres, sur les matrices communales. Et avant, on avait toujours les... Enfin, je ne sais pas si c'est toujours aujourd'hui, mais avant, à l'époque où il y avait ces activités, il y avait ce que rapportait les activités de chacun, le propriétaire terrien, agriculteur, viticulteur et tout ça. Et le bois, jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est le principal revenu de ces propriétaires. Mais le bois n'est jamais différencié, on ne sait pas trop ce que c'est le bois. Est-ce que c'est la coupe de bois, est-ce que c'est la vente du bois? Mais c'est ce qui est sûr, bon, ben, je sais maintenant. C'est entre autres, il y a deux choses quand même concomitantes. C'est le charbonnier, c'était aussi un rusquaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va récupérer l'écorce du charbon pour le tannage des cuirs. Ben, ça va servir aux tanneries. Et donc, c'est un rapport qui est très, très bon aussi. Et puis, il y a aussi, parce que le charbonnier, c'est aussi celui qui va faire la boulange, c'est-à-dire, en fait, il va faire le fagot pour le boulanger. Donc, en fait, c'est multi-rapport. Il y a encore d'autres...
En fait, tout était utilisé sur le chêne à l'air, quoi. L'écorce, les branchages, et ensuite bois pour faire du charbon.
Mais donc, ça veut dire qu'un charbonnier, en fait, il faisait plusieurs choses. D'accord. Autour de sa charbonnière, avec sa charbonnière. Et la femme, souvent, était employée pour ça, pour la boulange, en fait, les enfants aussi. Et... Donc, toute cette activité... était encore visible au travers de ces vestiges qu'on retrouve dans
les Garrigues. Et du coup, au niveau de l'inventaire, justement, on a pas mal de traces aujourd'hui qu'on retrouve.
Oui, alors, c'est ça, c'est avec tous ces témoignages, tout ça, ce qui m'intéresse, ce qui je pense intéresse pas mal de gens, c'est de retrouver l'économie de ce charbonnage. Donc je disais tout à l'heure, c'était le revenu principal, le bois, mais qu'est-ce qu'il y avait exactement comme revenu dans ce bois, qui était le principal revenu déjà de ses propriétaires. Donc on fait un inventaire, cet inventaire sur toutes les garrigues du Languedoc-Roussillon, du Languedoc, on va dire plutôt. Ouais. Eh bien, c'est là aussi quelque chose qui est important à faire.
D'accord. Alors, on va s'écouter une petite musique et puis on va revenir plus précisément sur l'événementiel qu'on organise autour des charbonnières.
Yeah.
Alors c'était Sogo de Baka Beyond sur Radio Escapade. Alors Martial Aquaron, donc qui nous parlait des charbonnières. Du coup, vous organisez une grosse manifestation pour autour des charbonnières à Sainte-Croix de Quintillard. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Voilà, ben c'est la mise en application de la théorie sur avec la pratique. C'est l'occasion de voir une charbonnière en activité, une meule charbonnière. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est un festival, en fait, ce qu'on appelle le Festival des Charbonnières, qui est sur le Sentier des Charbonnières, à 2 kilomètres au sud de Sainte-Croix de Quintillard, donc qui est un site aménagé déjà. Et tout au long du parcours, il y a 3 kilomètres, en gros, à parcourir. Il y a, au jour d'aujourd'hui, 21 ateliers, animations, qui sont, bien sûr, un peu plus ouverts que sur les charbonnières. Il y a 5 ateliers sur les charbonnières, en gros. Donc, il y en a une en cuisson, il y en a une où on montre comment on construit, où on peut participer, hein, puisque le thème aussi, c'est la qualité du festival, c'est de pouvoir aussi participer. Sur la vie des charbonniers, sur en fait, tout le milieu charbonnier. Mais il y a aussi sur les fours à chaud, il y a la distillerie, il y a la teinture végétale, il y a les arômes, il y a les pierres sèches.
D'accord, sur toutes ces activités qu'il y avait dans ces garrigues.
Voilà, c'est la garrigue, les garrigues en général. Il n'y a pas tout, évidemment, hein, tout ce qu'on peut trouver dans les garrigues, mais c'est quand même une vitrine assez large et surtout des animations.
Hein, d'accord, voilà. Donc en fait, ça marche comment ? C'est des ateliers, c'est des... C'est oui. Des animations, il y a un parcours sur lequel qu'on suit avec différentes animations le long du parcours.
Ouais, c'est ça, tout le long du parcours, il y a, on va dire, tous les 100 mètres, un atelier animation exposition avec des gens compétents qui sont là, qui parlent de leur savoir et qui le transmettent et puis qui le font partager. Et souvent, on peut aussi mettre la main à la pâte. Par exemple, il y a l'atelier du feu, technique du feu, bon, ça c'est un peu général, mais on apprend à faire le feu et on le fait. Il y a cette année, on aura la cartographie, hein, la carte garrigue qui va montrer l'inventaire des charbonnières. Il y a aussi des ateliers dans lesquels on peut construire, par exemple, une capitelle en maquette avec des petits...
Donc beaucoup d'ateliers pratiques, quoi.
Voilà, beaucoup d'ateliers pratiques. Beaucoup de savoir qui est transmis, parce que c'est, bon, on parlait un peu de la transmission, ça aussi c'est quelque chose qu'on veut faire, c'est-à-dire ce savoir, on ne veut pas le garder pour nous, on n'en a pas besoin, on va le transmettre, le donner à tous ceux qui viennent, et c'est ça qui est très intéressant. Bon, c'est la 10e année cette année, hein.
D'accord.
On a un public qui est toujours intéressé, qui ne vient pas là pour juste une promenade, mais qui a envie d'avoir des renseignements, des partages, puis il y a des gens qui connaissent aussi les activités qu'on présente, et qui viennent en parler. Moi, j'ai rencontré plein de gens, d'anciens, de nouveaux, qui s'intéressent aux charbonnières, qui sont venus me parler. On a eu certains qui sont venus d'Ardèche, d'ailleurs, et qui viennent.
Et du coup, le nom de ce festival, c'est Loup-Garou. Voilà. Alors pourquoi?
Parce que c'est un petit jeu de mots, Loup-Garou, c'est L-O, et plus loin, Garou. Le Garou, en fait, c'est le nom occitan d'une plante tectoriale qui a la Daphné en français, hein. Et Daphné Gnidium. Et donc, en français, ça donne le garou. Puis, juste avant.
En occitan, pardon.
Le garou. Et puis, juste avant, on faisait donc une manifestation qui s'appelait Loup-Gabelle. Voilà, donc c'est un peu dans la série. Et puis, comme les charbonnières, c'est jour et nuit, hein, parce qu'une charbonnière, quand elle est en cuisson, eh bien, on n'a pas un interrupteur pour l'arrêter la nuit. Souvent, il y a la pleine lune et voilà, le loup-garou, c'est aussi...
Elle met combien de temps, du coup, cette charbonnière-là que vous faites?
Alors, moi, celle que je mets en cuisson, minimum 3 jours.
Trois jours.
Et puis, les jours... donc, c'est parce qu'il y a le festival... Enfin, le festival, on va dire, l'ouverture au grand public, c'est le dimanche. Mais le vendredi et souvent le jeudi, il y a des scolaires qui viennent et qui viennent participer,
qui viennent visiter.
Voilà.
D'accord. Donc, c'est quand?
Alors, c'est le 8 mars cette année, hein, premier week-end de mars. Ça a été une tradition, on a toujours été sur cette période-là, avec parfois un peu plus tardive. Mais c'est voilà, ce sera le 8 mars, à partir de 10h, on va dire, hein, du matin. Alors, précision, il n'y a aucune zone marchande, on ne voit rien. Donc, il n'y a pas de buvette, il n'y a même pas de... Il faut venir avec si on veut pique-niquer, parce que c'est toujours sympa, parce que c'est très long, hein, les gens ne se rendent pas compte. C'est tellement intéressant qu'on a des personnes qui viennent, qui disent, bon, on vient pour une heure, mais ils vont rester la journée.
Ouais.
Parce que il y a vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup de contacts, et donc il faut amener son pique-nique, et c'est une bonne journée à passer.
Donc c'est le dimanche 8 mars à Sainte-Croix de Quintillargues. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un contact qu'on peut prendre?
Alors, il y a sur le internet, on peut aller sur le site du foyer rural. Donc c'est les Quintillades, lesquintillades.eu.
D'accord.
Ouais, voilà. Sinon, il y a mon numéro de téléphone, c'est pour vraiment quelque chose de... c'est le 06 09 574 584.
D'accord. Donc du coup, rendez-vous le 8 mars pour le festival Loup-Garou, le festival des charbonnières à Sainte-Croix de Quintillargues. Merci beaucoup Martial, et on va se laisser en musique.
Au revoir.
Au revoir.